Cependant, ô Éternel, tu es notre Père. Nous sommes l'argile et c'est toi qui nous as formés. Nous sommes tous l'ouvrage de tes mains. Romains 8. Romains chapitre 8. Romains chapitre 8, vous connaissez tous ce verset 28 qu'il faut lire à une seule phrase. Beaucoup de chrétiens l'ont coupé en deux, ce verset. Beaucoup, croyez-moi. Romains chapitre 8, verset 28. Romains chapitre 8, verset 28. Nous savons, du reste, que toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. Amen. Vous le croyez, ça? Vous en êtes certain? Vous le croyez parce que c'est écrit dans la Bible? Ou vous le croyez vraiment parce que Dieu tenait à ce que nous le sachions pour que nous comprenions beaucoup de choses? La volonté de Dieu, elle est bonne, agréable et parfaite. Ça fait partie du cursus de nos progrès avec Dieu. À partir du moment où quelqu'un a accepté Jésus comme sauveur, la volonté de Dieu, elle est bonne. Mais après, il y a ceux qui acceptent Jésus comme Seigneur et qui entrent justement dans cette dimension supplémentaire où la volonté de Dieu, elle est bonne, agréable et parfaite. Ce sont des hommes et des femmes qui deviennent utiles entre les mains du Seigneur. J'en ai parlé dernièrement parce que je fais une étude sur Jacob. En ce moment, je la fais pour moi-même, je la fais pour l'Église. Et je me rends compte combien Dieu, justement, qui fait concourir toutes choses au bien de ses enfants, saura vers qui nous amener. Vous croyez que Dieu sait quel est le patron qu'on doit avoir ? Vous avez vu Jacob pendant 20 ans, le patron qu'il a eu? Qui c'était son patron? Son oncle. 20 ans, 10 fois il a changé son salaire. 10 fois il a changé son salaire. C'est-à-dire que tous les 2 ans, il devait y avoir un truc qui ne lui plaisait pas. Voilà, le troupeau n'a peut-être pas assez prospéré. Eh bien, écoute, tu n'auras pas le salaire que je t'avais fixé. 10 fois il a changé son salaire. Il a travaillé 7 ans pour avoir Rachel. Le lendemain du mariage, il s'est rendu compte que dans le lit, c'était pas Rachel. On peut se demander, bon ça nécessite une explication, on peut se demander comment ça se fait qu'il n'a pas fait gaffe. Bon, peut-être que le mariage était arrosé, il y a d'autres explications. Il y a plusieurs explications, ce n'est pas le moment d'en parler. Mais enfin quand même, le lendemain il s'est rendu compte qu'il avait couché avec Léa, donc ça n'a pas plu. Mais voyez, il avait utilisé sa vie à tromper, et il a été trompé. Alors ça nous fait sourire parce que c'est vrai que on peut se demander quand même comment ça peut en arriver là. Mais en fait, il a dû retravailler après 7 ans, quoi. 7 ans pour avoir la deuxième. Ça aussi, c'est une drôle d'idée. Hein? Mais enfin, bon, je suis en train de faire une étude et je me rends compte que Dieu sait avec qui il doit nous mettre, même notre patron. Il sait très bien quel est le patron que l'on doit avoir pour nous former. Car, comme j'aime le dire, nous sommes ses enfants. Et comme nous sommes ses enfants, Dieu nous bénit. Oui, nous sommes ses enfants. Mais comme nous sommes ses enfants, Dieu nous change. Parce que Dieu ne veut pas que nous bénir. Dieu veut également nous changer. Et pour cela, il va faire concourir les choses pour que ça change ainsi. Vous priez peut-être d'une façon ou d'une autre, notre Père, que ta volonté soit faite. Que ta volonté soit faite, ça veut pas forcément dire que c'est ce que vous avez envie qui va s'accomplir. Vous le comprenez bien. Paul a souffert combien de temps dans sa vie après qu'il soit devenu chrétien? Presque toute sa vie. Presque toute sa vie, l'apôtre Paul a souffert. Résultat, il est toujours resté fidèle. Toujours. À la fin, vous avez vu comment il parle, de la façon dont il va partir dans la gloire. Hein? Il a fait énormément de bien, etc. On aura peut-être le temps de lire quelques lectures. Il a traversé beaucoup d'épreuves. Et au travers de chaque épreuve, il a appris certaines choses. Alors, comment a-t-il fait? Alors, on va lire un texte qui va nous servir ce matin pour cette prédication. Peut-être que je ne serai pas long ce matin. Ouais. 2 Corinthiens, chapitre 12. 2 Corinthiens, chapitre 12, il traverse une épreuve. Une épreuve de plus. Une épreuve de plus. Il a beaucoup, beaucoup, beaucoup reçu. Quand vous voyez le début du chapitre, il a même été ravi. Dans le paradis, c'est quand même une expérience hors du commun, vous ne trouvez pas? Quelle expérience? Alors, Dieu sait le danger qu'il court. Mais vous savez, c'est pareil pour nous. Regardez 2 Corinthiens chapitre 12 verset 7. Et pour que je ne sois pas enflé d'orgueil à cause de l'excellence de ces révélations, il m'a été mis une écharde dans la chair, un ange de Satan pour me souffleter et m'empêcher de m'enorgueillir. Trois fois, j'ai prié le Seigneur de l'éloigner de moi. Et il m'a dit, ma grâce te suffit, car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. Je me glorifierai donc bien plus volontiers de mes faiblesses, afin que la puissance de Christ repose sur moi. C'est pourquoi je me plais dans les faiblesses, dans les outrages, dans les calamités, dans les persécutions, dans les détresses, pour Christ, car quand je suis faible, c'est alors que je suis fort. Il faut quand même, ou il n'est pas bien du tout, ou alors il est arrivé à un degré de maturité spirituelle extraordinaire pour pouvoir dire « je me plais dans les faiblesses, je me plais dans les persécutions ». Paul a traversé beaucoup d'épreuves. Alors, sans vouloir tout expliquer, il y a une différence entre les fardeaux, les épreuves et la croix à porter. Beaucoup de gens mélangent tout. Justement, ils vont avoir un rhumatisme. Ah, c'est la croix. C'est des choses que vous n'avez pas cherché, un rhumatisme. La croix, c'est quelque chose que vous choisissez volontairement pour obéir au Seigneur. Donc, Dieu permet que nous sachions ce qui s'est passé à un moment donné dans la vie de Paul pour que nous comprenions comment nous devons réagir lorsque nous traversons certaines épreuves. Cette épreuve l'a beaucoup gêné. Il l'appelle une écharde dans la chair, on ne sait pas trop ce qu'elle est. Moi, j'ai entendu et lu tout un tas de choses sur cette fameuse écharde. Il n'est rien dit sur cette écharde. Il n'est rien dit. Mais j'ai entendu, moi, beaucoup de choses. En fait, l'important, ce n'est pas quelle était la sorte d'écharde. Ce qui est important, c'est qu'il a traversé une écharde. Et dans cette épreuve, Dieu va choisir de ne pas la lui enlever. Vous le voyez comme moi. Hein? Dieu l'a choisi. Donc, Paul va devoir apprendre à vivre avec cette épreuve. C'est comme ça qu'il faut le voir, d'accord? Après, on voit qu'il a fini par l'accepter et même qu'il a fini par s'en glorifier. Vous avez vu? Donc, jusqu'où ça va? À tel point que cette écharde l'a amené dans une vie de victoire encore plus grande. C'est comme ça qu'il faut voir le résultat. Alors, plusieurs points que nous allons partager. Premièrement, il y a toujours un but derrière chaque adversité. Nous, on est là, la preuve, nos prières prouvent qu'on n'a pas compris. Et pourquoi, Seigneur, tu permets ci? Et pourquoi, Seigneur, tu permets ça? Et je ne comprends pas pourquoi? Et ça m'empêche d'avancer, etc., etc. C'est bien la preuve que nous n'avons pas compris que derrière chaque épreuve, il y a un but assigné par le Seigneur. Donc, on voit déjà une première explication. Pour que je ne sois pas enflé d'orgueil. Voilà ce que Dieu va lui dire. À cause de l'excellence de ses révélations, il m'a été mis une écharde dans la chair. Donc, Paul est en train de comprendre que Dieu utilise l'adversité dans sa vie pour lui apprendre quelque chose de bien spécial. Vous en avez traversé des épreuves? Vous en avez traversé? Combien d'épreuves avez-vous traversé depuis que vous êtes chrétien? Combien? Oui, c'est sûr. Hein? Bon, il faut comprendre, vous savez mes frères et sœurs, pourquoi tant de chrétiens ont décroché? Ils n'ont pas compris l'épreuve. Ils n'ont pas compris. D'ailleurs, Jésus le dit dans la parabole du semeur, il dit, il croit pour un temps, et dès que survient une tribulation à cause de la parole, ils y trouvent une occasion de chute. Il n'y a rien de pire que de voir des chrétiens qui tiennent un temps. Dimanche dernier, nous étions à Castres avec la chorale. Je me suis réjoui avec mon épouse de voir des chrétiens qu'on connaissait il y a 32 ans quand on s'est converti et qui étaient toujours fidèles. Ça, c'est une joie. Vous retournez dans une église et vous voyez des gens toujours fidèles 30 ans après, 50 ans après. Ça, c'est un sujet d'action de grâce, vraiment. Et il y a des chrétiens, c'est écrit. C'est pas moi qui l'ai dit, c'est Jésus. Il croit pour un temps. Dès que survint une écharde. Dès que survient une épreuve, dès que survient une tribulation, ils y trouvent une occasion de chute à cause de la parole. Voilà. On ne comprend pas tout. L'épreuve, c'est un sujet un petit peu beaucoup difficile. Quand Job est mort, hier je pensais à beaucoup d'hommes de Dieu qui ont souffert. Quand Job est mort, même si Dieu a donné quelques explications, vous croyez vraiment qu'il avait tout compris de l'épreuve qu'il a traversée? Sérieusement. Est-ce que vous avez tout compris, vous, du livre de Job? Il y a quelques explications pour nous montrer que Dieu est souverain, ça c'est bien, que Dieu ne se trompe jamais, que sa femme s'est trompée, que Job s'est trompé, que ses amis se sont trompés, que le diable se trompe, tout le monde se trompe. Il n'y a que Dieu qui se trompe jamais. Voilà. Mais Job n'avait certainement tout compris. Et Joseph, vous croyez qu'il a tout compris pendant les 13 ans de tempête? Quand on lui a cassé la figure et qu'il s'est retrouvé esclave en Égypte, vous croyez qu'il avait tout compris? Est-ce qu'il a tout compris? Bon, lui, c'était du style à dire, c'est à Dieu qu'appartiennent les explications. Il y a des gens qui, eux, ont une confiance telle qu'ils disent, c'est pas grave, c'est à Dieu qu'appartient l'explication. Mais cette épreuve de Paul nous montre qu'on peut demander à Dieu une explication. La preuve, c'est qu'il va le faire. Ce n'est pas parce qu'on a une confiance totale en Dieu que ça nous empêche de demander des explications à Dieu. La preuve, c'est que ça va beaucoup lui servir. Donc, dans cette affaire, Dieu a choisi de lui donner une explication. Il faut avouer que Paul a prié. Je ne pense pas qu'il a prié 3 fois 2 minutes. Je suis persuadé qu'il en a fait une affaire très sérieuse et que s'il a dit qu'il a prié à 3 reprises pour que Dieu lui explique, pour que Dieu lui retire cette épreuve qui, bien sûr, pour lui, comme pour tout le monde, on n'aime pas souffrir. Il y a quelqu'un qui veut souffrir ? Bon, on n'aime pas souffrir. Mais là, cette affaire nous enseigne beaucoup de choses sur la souffrance. Donc, il y a une écharde, il veut savoir pourquoi il y a cette écharde et il veut surtout que Dieu l'en débarrasse. Dieu va parler à Paul et Dieu va lui expliquer. Et Dieu n'était pas obligé de lui expliquer, oui ou non? Là, Dieu va lui expliquer. C'est peut-être parce que Paul a prié 3 fois que Dieu va vraiment lui donner l'explication. Quand on souffre, c'est peut-être une bonne chose de demander au Seigneur pourquoi. C'est vrai que c'est un acte de foi. Moi, je crois qu'il faut prier pour que Dieu nous guérisse. Parce qu'à Golgotha, Jésus-Christ a porté toutes nos iniquités et toutes nos maladies. Oui, vous le croyez? Mais Dieu peut choisir, il faut le dire, Dieu peut choisir dans certains cas de permettre qu'une épreuve demeure. Oui ou non? Et si vous ne le croyez pas, vous êtes en désaccord avec la parole de Dieu. Il y avait un but que Paul a appris, c'était pour l'empêcher de s'enorgueillir. Est-ce que ça valait la peine que Paul ne s'enorgueillisse pas? Est-ce que ça valait la peine? Tiens donc, est-ce que ça vaut la peine que nous aussi, nous ne nous enorgueillissons pas? Vous allez me dire, mais on n'a pas le niveau de l'apôtre Paul. Mais quel que soit le plan de Dieu pour chacune de nos vies, vous croyez qu'il est important pour que chacun de nous ne nous enorgueillissons pas? Vous êtes d'accord avec moi? Même si on n'a pas la trempe de l'apôtre Paul, il empêche que Dieu ne veut pas que nous nous enorgueillissions. Et Dieu donc peut permettre dans notre vie certaines épreuves. Dieu va lui révéler. C'est bien. Il ne fallait pas qu'il s'enorgueillisse. Il a prié, je pense, je le répète, qu'il a beaucoup prié. Et Dieu lui donne l'explication. Joseph n'a pas reçu d'explication. Je pensais à Jacob. Jacob, quand son fils a été soi-disant tué par une bête féroce, Dieu aurait pu lui dire. Est-ce que Dieu s'était déjà révélé à Jacob? Quand ses fils vont lui faire croire qu'il a été tué par eux, c'est grave ce qu'ils ont fait, ces enfants. Il faut vraiment être méchant pour faire un truc pareil. Qu'il soit jaloux envers le frangin, bon, je comprends. Vous avez pas cette façon de parler. Mais laisser faire croire à leur père qu'il est mort de cette façon, mais est-ce que vous vous rendez compte? Dieu aurait pu lui dire, écoute, c'était pas la première fois que Jacob aurait fait un songe. Eh bien, pendant plus de 22 ans, il ne l'a pas su. Les 13 ans où il a été en Égypte, les 7 ans d'abondance, il ne l'a pas su. Donc, ça fait déjà 20 ans. Et ce n'est qu'au bout de 2 ans qu'ils sont partis chercher la nourriture. Donc, pendant 22 ans, Dieu ne lui a pas dit. Dieu n'est pas obligé de tout nous expliquer. Dieu, dans certains cas, le fait. Dieu, dans certains cas, ne le fait pas. Il est bon dans cette histoire de comprendre que ça vaut quand même la peine de prier lorsque nous sommes dans l'épreuve. Des fois on dit prier pour moi, prier pour moi. Est-ce que c'est bien de demander aux autres de prier? Oui. Mais il y a des gens quand ils sont dans la souffrance, ils ne prient pas. Alors que la Bible est catégorique. Quelqu'un est-il dans la souffrance? Qu'il prie. Ça ne veut pas dire qu'il parle des heures à Dieu. C'est peut-être aussi qu'il écoute Dieu. Parce que prier, ce n'est pas que parler. Prier, c'est aussi écouter. Il n'est pas dit qu'il parle. qu'il prie. J'espère que vous avez compris que dans la prière, il y a ce temps où on écoute aussi Dieu par la méditation de la parole du Seigneur. Dieu parfois explique, Dieu parfois n'explique pas. On pourrait prendre tous les cas, un derrière l'autre. Tiens, à Moïse, tiens, il lui a expliqué pourquoi il ne rentrerait pas dans le pays promis. Vous savez à cause de quoi? À Joseph, il lui a rien dit, etc. Jésus nous a avertis, nous traverserons tous des tribulations. Vous aurez des tribulations, mais prenez courage, j'ai vaincu le monde. Il n'a pas dit, voilà, vous aurez des tribulations et je vous expliquerai chaque fois afin de vous soulager, afin que vous ne vous affoliez pas. Non, vous aurez des tribulations, mais prenez courage. Dieu n'est pas obligé de nous expliquer chaque fois. Dieu ne fait pas un reproche à Paul parce que Paul prie trois fois. Vous avez vu? Dieu ne lui fait aucun reproche. Paul prie, Seigneur, éloigne de moi cette écharde, elle m'empêche d'exercer mon ministère comme je le voudrais. Est-ce que c'est normal de prier pour que Dieu éloigne? Oui. Pourquoi? Eh bien, parce que nous ne sommes pas trop en emphase avec la souffrance, parce que nous sommes faibles et que nous avons envie, nous, d'être en pleine forme pour servir le Seigneur. Oui ou non? Mais c'est normal. Dieu connaît notre faiblesse. Faisons attention entre la faiblesse, les manquements et puis les péchés. Ne me faites pas dire que j'ai dit que Dieu connaît nos péchés et que Dieu tolère nos péchés, qu'on peut faire n'importe quoi. Je parle de faiblesse. Une chose est sûre, le fait que dans l'épreuve, nous demandions à Dieu d'éloigner l'épreuve prouve quand même que nous manifestons notre foi en Dieu. C'est bien la preuve. Vous ne croyez pas? Même si on ne sait pas comment ça va se finir, une chose est certaine, c'est une très bonne chose d'exprimer sa foi en Dieu dans toutes les épreuves, les combats, les fardeaux et tout ce qu'il y a. Donc, Paul obtient la réponse une fois qu'il a prié trois fois. Il a prié trois fois. Alors pour la prière, j'ai lu dernièrement un livre. On m'a dit, Monsieur Gau, ce livre c'est super. Il est dit que la foi c'est vous prier une fois. Et si vous priez plusieurs fois, c'est que vous n'avez pas la foi. Mais ça court ça dans les églises. La vraie foi, Dieu il n'est pas sourd. Et vous lui dites une chose une fois. C'est ça la vraie foi. Moi quand je vois Jésus à Gethsémané, quand je vois l'enseignement de Jésus sur la prière, je crois qu'il y a des sujets, on peut le prier qu'une fois. Vous voyez ce que je veux dire? Ça peut arriver, voilà, tiens, vous prierez pour telle personne, elle est malade, on va prier une fois pour cette personne, mais il y a des sujets, il faut prier tous les jours. Oui ou non? C'est écrit. Il y a des gens, les gens de notre famille qui sont perdus, on ne prie pas une fois, on prie tous les jours, Seigneur, sauve-les. Et ça fait partie du combat spirituel. Faites attention, mes frères et sœurs, à ce que vous lisez, franchement. Donc, Paul a obtenu la réponse après avoir persévéré dans la prière. On peut avoir besoin de demander. Je parlais de Joseph qui, lui, je crois que Joseph était dans un cas particulier. Joseph n'a rien demandé. Rien, rien. Il a juste demandé à la chanson qu'ils se souviennent de lui auprès de Pharaon, mais on voit que c'est un homme qui était dans un repos total. Il n'a rien demandé. Il y a des gens qui me l'ont déjà dit. Moi, je ne demande rien. Ça m'est arrivé, peut-être à vous aussi, dans certaines épreuves, de dire non, je fais confiance à Dieu. Je me souviens, moi, quand j'ai perdu ma sœur jumelle, on m'a dit, mais comment ça se fait? Comment ça se fait? J'ai dit, écoutez-moi, je fais confiance à Dieu, je pense que Dieu sait ce qu'il fait. Et jamais, je ne me souviens pas avoir dit au Seigneur, pourquoi ma sœur, elle est morte. Je ne m'en souviens pas, je me souviens avoir décidé de ne pas poser de questions. Mais il y a des domaines où on n'a pas besoin de savoir, il y a peut-être des domaines où on a besoin de savoir. Oui ou non? Bon, chacun, mais ne jugez pas quelqu'un parce qu'il demande, ne jugez pas quelqu'un parce qu'il a mis toute sa confiance à Dieu, toute sa confiance dans la souveraineté de Dieu. Je crois que quand même qu'on a le droit aussi de demander. Paul, Jacques le dit, quand on ne comprend pas l'épreuve justement, qu'on la demande. Si quelqu'un manque de sagesse, parce que les épreuves, il faut de la sagesse. Si quelqu'un manque de sagesse, qu'il la demande à Dieu, qu'il donne à tous sans reproche. Et elle lui sera donnée. Mais qu'il demande avec foi, sans douter, car celui qui doute est semblable au flot de la mer, qu'un tel homme ne s'imagine pas qu'il recevra quelque chose de la part du Seigneur. Alors, c'est bien d'avoir une attitude de foi qui dit, moi, je fais confiance à Dieu, Dieu est souverain, je ne m'embarrasse pas de savoir. C'est très bien. Si vous êtes comme ça, c'est une bonne chose que vous le restiez. Mais il peut arriver aussi que dans des épreuves quand même qui nous préoccupent, on nécessite de demander à Dieu. Dieu ne vous en voudra pas si vous lui demandez de la sagesse pour comprendre l'épreuve. C'est écrit dans Jacques chapitre 1, versets 5 à 7, si je me trompe. Mais demandez avec foi, sans douter. C'est pas grave si vous ne demandez pas, mais si vous demandez, mes frères et sœurs, soyez soucieux de demander avec foi. Même si vous ne comprenez pas pourquoi vous traversez une épreuve. En tous les cas, ce texte de Paul, de Jacques, nous prouve que ce n'est pas interdit de demander. Que c'est peut-être même quelque chose qui peut faire du bien à quelqu'un. Voilà, Seigneur, je ne comprends rien, j'aimerais que tu m'éclaires. Parce qu'en fin de compte, la situation s'est réglée par une révélation du Seigneur. Oui ou non? Qu'est-ce qui s'est passé? Même si Dieu n'était pas d'accord avec sa prière, Dieu en tous les cas lui a répondu. Et il ne faudrait pas que de croire dans la souveraineté de Dieu, ça nous amène à ne plus prier et ne pas avoir de réponse de la part du Seigneur. Vous voyez, Paul voulait une réponse, il l'a quand même eue. Je ne sais pas dans quelle épreuve vous êtes, je ne sais pas pourquoi vous traversez telle et telle épreuve. Vous savez, les épreuves dans la Bible, elles sont souvent une bénédiction du Seigneur. Nous, on les voit comme des choses que Dieu fait contre nous, mais quand vous lisez la Bible, vous vous rendez compte après que ce sont des choses que Dieu a fait pour nous. D'ailleurs, j'ai regardé hier dans la version Darby et j'ai été étonné, peut-être vous l'avez la version Darby, quand Paul dit « il m'a été mis une écharde dans la chair », si quelqu'un a la version Darby sur lui, je sais que ce n'est pas la version qu'on lit le plus, mais vous savez ce qui est écrit ?« Il m'a été donné ». Et hier, j'étais en train de préparer cette prédication, j'avais ma Bible, et je me suis dit, je crois que le Seigneur m'a conduit, que ce n'est pas ce mot. Et Paul dit, il m'a été donné une écharde. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, l'apôtre Paul est en train de dire que c'est vraiment Dieu qui le lui a donné, que c'est un don. Alors bien sûr, ça peut faire réfléchir plusieurs. Comme je le disais tout à l'heure, nos prières prouvent parfois que ce qui nous arrive est interprété comme quelque chose que Dieu fait contre nous. C'est pas vrai? Et pourquoi si? Bon, il y a des choses qui nous arrivent, c'est de la négligence. Ce qui m'est arrivé à moi, je peux vous dire que c'est vraiment pas intelligent. J'ai déplacé une machine à laver tout seul. Mais vraiment, quand j'y pense. Bon, il y a des choses, c'est le résultat de la bêtise. Vous le savez? De la négligence. Vous le savez? Pourquoi vous riez? Il y a des choses que Dieu vraiment permet. Mais je vous en supplie, ne dites pas que parce qu'une épreuve vous arrive, Dieu est forcément en train de faire quelque chose contre vous. Pour nous, l'adversité, c'est mauvais. Et pourtant, vous le vérifierez dans la Darby. Et pour que je ne sois pas enflé d'orgueil, il m'a été donné. Il m'a été donné. Oui, c'est un don. Pourquoi? Eh bien, parce que cette épreuve a protégé Paul de l'orgueil. Quand vous voyez ce que Dieu fait avec les orgueilleux, moi je trouve que ça vaut la peine d'être protégé de l'orgueil. Qu'est-ce que Dieu fait avec les orgueilleux? Il ne fait rien. Ici, il résiste. Dieu résiste aux orgueilleux. C'est la seule chose que Dieu fait avec un orgueilleux. Il y a des gens, ils ne se sont pas trop... Vous voyez Jonas, ce n'était pas le meilleur pasteur qu'on ait connu. Vous croyez? Vous êtes d'accord avec moi? Mais est-ce que Dieu l'a utilisé quand même? Vous l'auriez utilisé, vous, Jonas? Vous l'auriez pris comme stagiaire? Non. Et pourtant, Dieu utilise quelqu'un, même si au départ, il part mal. Oui ou non? Dieu a utilisé Jonas. Dieu a utilisé des hommes comme David. Est-ce que Dieu savait qu'à une certaine époque, David, qui ne serait pas à sa place, commettrait l'adultère avec une femme? Est-ce que Dieu le savait? C'est pas bien ce qu'il a fait. Mais Dieu peut utiliser un homme. Parce qu'un péché, quand même, il y a des gens qui se repentent vraiment. Vous voyez ce que je veux dire? Et on pourrait prendre tous les cas de figure. On dit, mais tiens, Dieu a quand même utilisé celui-ci. Dieu a quand même utilisé Abraham. Abraham, il a menti quand même. Il a surfé avec la vérité. Dieu, par contre, n'utilise jamais un orgueilleux. C'est comme ça. Un orgueilleux, Dieu ne fait qu'une chose. Avec un orgueilleux, il lui résiste. Donc, on peut interpréter le fait que cette écharde était vraiment une grâce de Dieu pour empêcher cet homme de s'enorgueillir. Parce que quand même, il a écrit quoi, monsieur Olé, reprenez-moi, les deux tiers du Nouveau Testament. Non, presque. Paul. Ça doit friser. Presque la moitié, non? La moitié du Nouveau Testament, cet homme. Est-ce que vous vous rendez compte comment cet homme a été utile entre les mains de Dieu? Et à partir du moment où une épreuve nous protège, c'est une grâce. C'est pour ça, ne vous fâchez pas parce que vous êtes en train de traverser quelque chose que vous ne comprenez pas. Rien ne détruit autant une personne que l'orgueil. Je pense que vous avez déjà vu le vérifier dans vos familles, oui ou non. Vous avez jamais vu des gens orgueilleux? C'est terrible l'orgueil. Que Dieu nous en préserve. On apprend l'humilité, ça s'apprend. Nous ferons une étude prochainement justement sur l'humilité, combien c'est important de se rendre humble, comme le Seigneur nous l'enseigne. Donc ce n'était pas quelque chose que Dieu faisait contre lui, c'était quelque chose que Dieu faisait pour lui. C'est vrai que si on lit la suite, ça complique un peu. Parce que là, je viens de vous donner une explication, et vous êtes d'accord avec moi, je l'espère. Mais après, quand on lit la suite, voilà, il m'a été mis une écharpe dans la chair, virgule, un ange de Satan pour me souffleter. Qu'est-ce que vous avez pensé la première fois que vous avez lu cette affaire? Qu'est-ce que c'est cette affaire? Un ange de Satan utilisé dans la vie de Paul pour le souffleter et faire en sorte, bien sûr, que Paul ne s'enorgueillisse pas. Que Dieu utilise les anges de Satan dans la vie des chrétiens. Ça ne vous a pas choqué la première fois que vous avez lu ça? Moi, oui, je vous le dis. Bon, la meilleure façon de comprendre, c'est de revenir à l'épreuve de Job. Quand vous arrivez à l'épreuve de Job, vous comprenez que vous pouvez faire confiance à la souveraineté de Dieu. Oui ou non? Est-ce que vous croyez vraiment que Dieu est souverain? Qui règne sur tout, mais absolument tout, sur toutes les galaxies, sur toutes les fourmis. Est-ce que vous croyez que Dieu règne sur tout? Si vous croyez ça, vous êtes heureux. C'est bien de savoir que Jésus est mort sur la croix, c'est la chose la plus importante, d'être passé au calvaire. Mais si en plus, vous croyez que ce Seigneur Jésus, assis sur le trône, est souverain, vous aurez moins de mal à laisser Dieu vous parler. Oui, Job a vécu quelque chose de difficile. Dieu savait l'épreuve que Job pouvait traverser. Est-ce qu'on peut tous traverser les mêmes épreuves? Est-ce que vous croyez qu'on peut tous traverser les mêmes épreuves? Moi non. Je pense que Dieu connaît la pression que chacun peut traverser, que subir. Vous ne croyez pas? Hein? Il y a des gens, ils subissent de ces choses, on dit, mais ce n'est pas possible. Comment il tient? Eh bien parce qu'il peut endurer ça, Dieu nous connaît. Et il sait très bien ce que nous pouvons endurer. Ne vous inquiétez pas, Dieu ne vous mettra pas plus de pression que ce que vous pouvez supporter. Croyez-moi. Enfin, ce texte, il est là pour nous montrer, entre autres, que même les machinations du diable, quelles qu'elles soient, eh bien, peuvent servir nos intérêts, et les intérêts du royaume de Dieu surtout. Alors, oui, la réponse de Paul, ce n'était pas celle que Dieu attendait. Mais voyez, écoutez bien, parce que Dieu nous parle, vous êtes d'accord? Au travers d'un texte comme celui-ci, le Seigneur peut nous parler. Vous êtes d'accord avec moi? Bon, cette parole a été d'abord une réponse. Bon, Dieu lui a parlé, il s'est révélé. Et je reviens à ce que j'ai dit tout à l'heure, c'est ça surtout qu'on a besoin. Que Dieu enlève, que Dieu n'enlève pas, que Dieu ait permis, ou que l'intention vienne du diable, j'en sais rien. Quelle que soit l'origine de l'adversité, que ça vienne de notre propre péché, parce qu'il y a l'adversité parfois qui vient de nos péchés, bon, du péché des autres aussi. Et l'adversité peut venir de Satan, l'adversité peut venir de Dieu. Vous rappelez les apôtres quand ils ont vu cet aveugle de naissance? Qui c'est qui a péché? Pour qu'il soit né aveugle? C'est lui ou ses parents? Comment lui aurait-il pu pécher dans le sein de sa mère? Mais ça prouve qu'ils avaient tous la conviction que quand quelqu'un est malade, ça vient du péché. Et Jésus va répondre, ce n'est pas que lui ou ses parents aient péché, mais c'est afin que la gloire de Dieu soit manifestée. Vous voyez, là c'est clair. Ça ne venait pas du péché, ni des parents, ni du gosse. Dieu, dans sa souveraineté, avait permis cette épreuve qui allait servir à la gloire de Dieu. C'est pour ça qu'il faut faire attention avant de dire, oui, toutes les tempêtes qu'on traverse, ça vient de Satan.
Moi, j'ai entendu ça, une chrétienne qui disait, ouais, si t'es dans la tempête, c'est parce que tu désobéis à Dieu. Regarde Jonas, il était dans la tempête parce qu'il désobéissait à Dieu. Et si t'es dans la tempête aujourd'hui, eh bien, c'est parce que tu dois désobéir à Dieu. Et cette chrétienne est venue me trouver, elle était malheureuse comme tout. Elle me dit, vous rendez compte, monsieur, je suis dans la tempête, on m'a dit que j'étais comme Jonas, qu'est-ce que vous en pensez? Et justement, dans la semaine, j'avais étudié les 4 tempêtes qu'il y a dans la Bible. Il y a 4 tempêtes dans la Bible. Une avec Jonas, 2 avec Jésus, et une de l'apôtre Paul. Et dans les 4 tempêtes, il y en a 3 qui sont vraiment dans la volonté de Dieu. L'apôtre Paul, est-ce qu'il était dans la volonté de Dieu quand il allait à Rome? Je pense qu'il était dans la volonté de Dieu. Est-ce que quand Jésus a dit aux apôtres, traversez le lac, ils étaient dans la volonté de Dieu? Est-ce que quand les 12 avec Jésus, étaient dans le bateau et qu'il y a eu une tempête, est-ce que vous pensez qu'à ce moment-là, Jésus était dans la volonté de Dieu? Donc, ça vous prouve bien que sur 4 tempêtes, il y en a 3 que Dieu a permises et qui étaient vraiment dans la volonté de Dieu. L'affaire de l'adversité, c'est une affaire terrible parce que beaucoup de chrétiens ne savent pas comment parler aux gens qui sont dans l'adversité et ça vaut la peine de s'y pencher sérieusement. Je reviens à ma pensée. Paul a reçu une révélation parce qu'il a prié. Il a eu la réponse, pas celle qu'il attendait, mais il a eu la réponse. Premièrement, donc, il a dû être consolé parce que Dieu lui avait donné une réponse. Deuxièmement, Dieu lui rappelle que malgré tout, Dieu sera toujours avec lui. Ce n'est pas parce qu'on est dans une épreuve que Dieu nous abandonne. Alors vous allez me dire, oui, mais ça Dieu l'a dit à Jacob, Dieu l'a dit à Paul, Dieu l'a dit à Abraham, je serai avec toi, je ne t'abandonnerai pas. Mais il ne me l'a pas dit à moi. Mais dans le Nouveau Testament, ce n'est pas écrit que Dieu ne nous abandonnera jamais. Est-ce que c'est écrit? Est-ce que c'est écrit dans le Nouveau Testament que Dieu ne nous abandonnera jamais, qu'il sera toujours avec nous? Oui, il nous l'a dit. Même le nom que Dieu porte, ça s'appelle Emmanuel, Dieu avec nous. Oui, il a promis de ne jamais nous abandonner. Et même s'il permet qu'une épreuve perdure pour nous empêcher de nous enorgueillir ou pour nous empêcher, je ne sais pas moi, de tomber dans un autre côté pervers, eh bien, que son nom soit béni. Et je crois que bien souvent, nous sommes passés à côté de la consolation que Dieu voulait nous donner parce que dans l'épreuve, nous nous sommes braqués. Et je ne comprends pas, et je prie, et ça ne sert à rien, j'ai jeûné, Dieu ne m'a pas répondu. Mais c'est sûr que si c'est dans cet état d'esprit, si on ne prie que pour avoir la réponse que nous on veut, il est certain que ce n'est pas certainement le bon état d'esprit. Quand Hérode a fait venir Jésus dans son palais et que monsieur sur son trône a dit à Jésus « Je veux voir un miracle », il n'a rien vu, il n'a rien entendu. Ce n'est pas comme ça que ça marche. S'il était descendu de son trône et s'il avait dit « Écoutez le staff là, le roi ce n'est pas moi, c'est lui. C'est lui le roi et j'ai besoin de lui. » Moi je crois que là Jésus lui aurait répondu, vous voyez. Mais quand on commence à dire « Fais un miracle, ça ne va pas se passer comme ça. Je crois que le bon sens nous propose de dire, Seigneur, montre-moi. Et je pense qu'il ne faut pas se braquer. Je ne prie plus. Moi, des fois, alors vous avez prié. Non, je ne prie plus. Ça ne sert à rien. C'est sûr que dans cet état d'esprit, c'est exact. Moi, quand j'entends quelqu'un, je vois quelqu'un qui court-circuite le tableau électrique. Ça me fait toujours cette idée. Quelqu'un qui se met hors circuit. Quand quelqu'un me dit, voilà, je ne prie plus, j'en ai marre, je ne vais plus à l'église. Tac. Pour moi, c'est quelqu'un qui s'est mis hors circuit. Je crois qu'il faut dire, Seigneur, montre-moi. Cette épreuve, elle ne me plaît pas beaucoup. Cette écharde, elle ne me convient pas. Seigneur, montre-moi. Et Paul a commencé à être consolé. Il a été consolé. Combien de chrétiens passent à côté de la consolation? Je me rappelle un jour, j'avais été voir une dame qui recevait une voisine. Et cette femme avait perdu, cette chrétienne avait perdu son mari. Et elle était dans une colère et une irritation. Elle m'a dit, mais moi je vous comprends, parce que j'ai perdu mon mari, et je sais ce que c'est. Et quand la voisine est partie, j'ai dit, mais vous savez peut-être ce que c'est, mais vous n'avez pas été consolé. C'est bien de comprendre les gens, mais c'est mieux d'avoir reçu la consolation du Seigneur pour pouvoir consoler. Parce que c'est l'apôtre Paul qui le dit, que si on a été consolé, c'est pour pouvoir consoler les autres. Et ce n'est pas parce qu'on a traversé une épreuve qu'on comprend les autres, ce n'est pas vrai. On peut aider les autres une fois qu'on a traversé une épreuve et que dans l'épreuve, on a reçu la consolation, ou le reste, pour pouvoir aider les autres personnes. Ne passez pas à côté de la bénédiction. Ne vous braquez pas. Ne dites pas, je ne comprends pas. Ne vous braquez pas parce qu'un chrétien a été maladroit. Ça arrive ça qu'un chrétien soit maladroit. Mais tu ne devrais pas être dans l'épreuve. Tu devrais être dans la foi. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Bon, bien sûr qu'il y a des façons de dire compte sur le Seigneur. Hein? Mais vous êtes tous convaincus qu'il y a des épreuves, elles ont duré quelque temps, quelques mois ou même quelques années, et quand vous êtes retourné, vous avez dit ben, c'était bien. J'en avais besoin. Oui ou non? Vous n'avez pas? Vous n'avez pas fait ça un jour? Vous vous êtes retourné et vous avez dit tiens, combien j'en avais besoin? Eh ouais. Alors, ne passez pas à côté en vous braquant. Mettez-vous dans la présence de Dieu et commencez à lui dire, Seigneur, éclaire-moi. On a lu dans Ésaïe, nous sommes son ouvrage, nous sommes ses enfants. Mais nous ne sommes pas que ses enfants, nous sommes les vases. Je le répète, Dieu bénit ses enfants, mais Dieu également change ses enfants par l'épreuve. Oui, ne commencez pas à douter parce que vous passerez à côté de la grâce. La réponse que Dieu va surtout lui donner est celle-ci, ma grâce te suffit. Est-ce que vous l'entendez ça ce matin? Vous l'entendez avec les oreilles physiques ou est-ce que vous l'entendez avec les oreilles de votre cœur? Vous devez répondre. Vous répondre. Ce matin, on peut penser que le Seigneur Jésus, dans sa grâce, le Saint-Esprit, peut m'utiliser pour vous parler. Oui ou non? Il se pourrait que ces quatre mots soient une bénédiction pour plusieurs. Ma grâce te suffit. Parce que ce qui était valable pour Paul, c'est quand même valable pour chacun d'entre nous. La grâce suffit, parce qu'il ne va pas lui donner que sa grâce et que sa consolation. Ça aurait été déjà bien. Il m'a parlé, il m'a expliqué, bon, c'est pour m'empêcher de m'enorgueillir, bon, c'est déjà pas mal, bon, c'est bon, j'accepte. Il va avoir la réponse, il va être consolé, mais il va être fortifié. Parce que des fois, on le chante, que le faible dise, je suis fort, tout ça. On devrait l'expliquer chaque fois. Les meneurs de chant, on devrait presque, bon, on n'a pas trop de temps pour parler quand on fait chanter, mais peut-être l'expliquer. Il va de soi que Dieu fortifie le faible quand le faible dépend de Dieu. C'est évident. Mais il va être fortifié. Vous avez vu, ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. Dieu lui parle de sa puissance. Il ne lui parle pas que de consolation. C'est pour vous dire comment ça va en crescendo quand on accepte l'épreuve. Il est consolé. Dieu lui rappelle une vérité extraordinaire. Ma grâce te suffit. Mais Dieu va lui montrer surtout que sa puissance va s'accomplir. Vous vous rendez compte? Et il se glorifie dans la faiblesse. Parce qu'il sait très bien que c'est Dieu qui va faire ce que lui ne peut pas faire. Parce qu'on ne peut pas se faire l'idée d'un homme faible. Quand vous pensez à Paul, vous avez l'idée d'un homme peureux. Vous avez vu tout ce qu'il a traversé? Tout ce qu'il a traversé, cet homme? Je me plais dans les faiblesses. On ne peut pas dire, ouais, mais c'était un faible, Paul. Tiens, moi j'ai lu, le gars qui lirait que ça. Ah oui, moi j'ai lu l'histoire de Saint Paul. Enfin, j'ai pas lu beaucoup, mais j'ai lu un verset. Oui, c'était un gars faible. Il se plaisait même dans les faiblesses. Oui, c'était une femmelette. Moi, c'est pas comme ça que je vois l'apôtre Paul. Regardez, on va lire, puisque je vois qu'on a le temps, on va lire ce qu'il a vécu. Et je pense qu'il n'a pas tout dit, mais il va résumer une partie de son ministère. 2 Corinthiens, chapitre 11, verset 23. Il va résumer quelques épreuves qu'il a traversées. Et si c'est ça l'idée que vous vous faites d'un homme faible, eh bien vous allez changer d'avis. 2 Corinthiens chapitre 11 verset 23. Tous sont-ils ministres de Christ? Je parle en termes extravagants. Je le suis encore bien plus. Par les travaux, bien plus. Par les coups, bien plus. Par les emprisonnements, bien plus. Souvent en danger de mort. 5 fois j'ai reçu des juifs 40 coups moins 1. 3 fois j'ai été battu de verge. 1 fois j'ai été lapidé. 3 fois j'ai fait un naufrage. J'ai passé un jour et une nuit dans l'abîme. Fréquemment en voyage, j'ai été en péril sur les fleuves. En péril de la part des brigands. En péril de la part de ceux de ma nation. En péril de la part des païens. En péril dans les villes. En péril dans les déserts. En péril sur la mer. En péril parmi les faux frères. J'ai été dans le travail et dans la peine exposé à de nombreuses veilles, à la faim, à la soif, à des jeûnes multipliés, au froid et à la nudité. Et sans parler d'autre chose, je suis assiégé chaque jour par les soucis que me donnent toutes les églises. Et quand il parle des jeûnes, c'est pas le genre de gars à dire « j'ai jeûné », c'est qu'il avait rien à manger. Tenez-vous bien que c'était pas le style à dire « moi je jeûne ». il est en train d'expliquer qu'il a passé des moments dans sa vie où il n'avait rien à manger. Il a vécu dans l'abondance, il a vécu dans la disette, et en fin de compte, cet homme, même si certains pensent qu'il était faible, parce qu'il y en a qui le disaient, même dans les Corinthiens, vous l'avez lu. Moi, ce n'est pas une idée que je me fais de la faiblesse. C'était un homme qui dépendait entièrement de Dieu, et quand il était faible, il savait que c'était Dieu qui allait compenser. C'est comme un enfant, plus il est petit, plus il est petit, plus il est petit, plus sa mère le porte. Un enfant de 20 ans qui serait porté par sa mère, continuellement, une femme qui viendrait à l'église avec son enfant de 20 ans dans les bras, on dirait, ça serait temps qu'il marche. Vous voyez ? Mais une maman qui porte tout le temps un bébé de 3 mois dans les bras, ça ne vous choque pas. Eh bien, c'est exactement ce que je veux vous expliquer. Il y a des chrétiens, ils sont tout le temps portés. Tout le temps. Ça vous a fait rire, mais je peux vous dire qu'il y a des chrétiens qui sont tout le temps portés par Dieu. C'est des vrais bébés. Et puis, par contre, c'est l'image naturelle. Plus quelque chose est faible, plus elle a besoin de force extérieure. Et l'apôtre Paul est en train d'expliquer cette loi. C'est que lui dit, mais je me plais, parce que quand je suis faible, c'est Christ qui fait le reste. Mais il vivait ça dans l'obéissance. Parce que si je dis, je suis faible, eh bien, je fais ce que je veux, je ne peux rien faire. Ça, c'est du péché. La faiblesse dans le sens où je continue à vivre dans l'obéissance, je cherche à savoir ce que Dieu veut dans ma propre vie, mais il faut comprendre que quand on se plaît dans la faiblesse, c'est parce qu'on vit dans l'obéissance et que le Seigneur fera le reste. Parce qu'il parle, il ne dit pas tout, il ne dit pas toutes les églises qu'il a fondées dans les endroits difficiles. Il a abandonné, comme plusieurs parmi nous, sa famille, sa maison, ses parents, sa nation. Il ne dit pas tout. Vous aussi, peut-être que vous avez abandonné votre famille pour servir Dieu. Ben, Dieu l'a vu. Dieu l'a vu. Et Paul n'est pas devenu amer parce que Dieu lui a dit non. Il n'est pas devenu amer. Est-ce que vous êtes dans l'amertume parce que Dieu n'a pas répondu à votre prière? Vous devez répondre. Dieu n'a pas répondu à votre prière? Vous avez une écharde qui vous empêche d'avancer, qui semblerait vous empêcher d'avancer? Vous êtes en colère? En colère contre Dieu? En colère contre les gens? Ou vous êtes comme Paul, vous dites non, je m'en réjouis. Ça doit me garder de m'enorgueillir, ça doit me garder de si. Il a expérimenté plus que la consolation. Il a expérimenté la puissance de Dieu à cause de cette épreuve. Bien sûr que personne n'aime souffrir, mais mes frères et sœurs, apprenons à vivre de la grâce de Dieu. Ne soyez pas accaparés que par le matérialisme. Il y a des gens, ils ont besoin de... Ils s'imaginent, les chrétiens, là, c'est des chrétiens. Qui s'imaginent que plus matériellement ils seront bénis, plus ils seront heureux. Alors, je ne suis pas contre l'idée d'améliorer sa condition matérielle. Est-ce qu'on peut être contre? Est-ce que vous vous réjouissez si vous allez chez quelqu'un qu'il a tout dans sa maison, que Dieu le bénit matériellement? Est-ce qu'on est contre? Non. Mais si un chrétien ne pense qu'à améliorer sa condition, ce n'est pas bon. Un chrétien, il devrait être content dans l'état où il est. Il a appris à vivre comme ça, Paul. Seigneur, merci pour la condition dans laquelle je me trouve. Oh, j'ai peut-être pas le dernier écran plasma. J'ai peut-être pas ce que j'aurais... Mais Seigneur, je suis content dans l'état où je me trouve. Seigneur, ta grâce, elle me suffit. Est-ce que la grâce de Dieu vous suffit? Est-ce qu'on va terminer là dans 2 minutes? Est-ce que vous sortez en disant, mais oui, franchement, pareil. La grâce de Dieu, elle me suffit. Seigneur, si tu améliores ma condition, que ton nom soit béni. Mais si la condition matérielle devait vous enorgueillir, moi j'ai connu des chrétiens qui étaient au SMIC, qui avaient un petit salaire, il fallait souvent les aider même. Dès qu'ils ont gagné de l'argent, ils ont abandonné Dieu. Je ne suis pas le seul à avoir vu ça. Vous n'en avez jamais vu des chrétiens qui, dans l'argent, ont abandonné Dieu? Eh bien, ils auraient mieux valu qu'ils restent au SMIC. Franchement, qu'aller en enfer. Alors je ne dis pas parce qu'on est très riche qu'on va abandonner Dieu. Il y a peut-être des gens très riches dans l'église, mais tant mieux. Mais que la condition matérielle soit toujours secondaire. Seigneur, tu m'as donné un peu plus, eh bien merci. J'ai un peu moins, eh bien merci quand même. Moi je veux être comme Paul, je veux garder la foi jusqu'au bout. Je veux que ta puissance se manifeste dans ma faiblesse. Tu me rends un peu plus fort, ben tant mieux. Mais mes frères et sœurs, ne dépendons pas de notre condition matérielle, ne dépendons pas de tout ce qui est humain, dépendons de la grâce de Dieu. Que le bonheur et la grâce nous accompagnent. Voilà, parce que même si vous deviez avoir un salaire qui double tous les ans, ce n'est pas pour ça que vous serez heureux. Merci pour le matériel. La Bible, Paul dit que Dieu nous donne toutes choses afin que nous en jouissions. Mais que ces choses-là ne soient pas prioritaires. Que la priorité, ce soit la volonté de Dieu. Vous pouvez le dire ce matin ? Je ne veux pas vous, je veux pas vous mettre mal à l'aise, mais est-ce que vous pouvez dire, oui, mais moi, ma priorité, c'est la volonté de Dieu ? Vous pouvez le dire dans votre cœur ? Ma priorité, c'est ce que Dieu veut. Alors, je crois dans la guérison, je crois dans la puissance du Saint-Esprit, mais si Dieu permet qu'une épreuve, reste, mais Seigneur, je veux par contre persévérer dans la prière pour que tu me montres quelque chose. Parce que quand même, la clé de tout ce qu'on a pu partager ce matin est également le résultat d'une révélation de Jésus-Christ. Donc il faut que dans toute chose, Dieu se révèle une fois de plus dans notre vie. Que son nom soit béni. Notre Père, notre Seigneur, tu as dit que toute ta parole était inspirée, eh bien nous le croyons. Et nous te remercions pour le témoignage de Paul qui nous explique comment il a traversé certaines épreuves et comment pour nous également ta grâce nous suffit. Seigneur Jésus, nous te remercions pour ta grâce, puisqu'elle est éternelle, puisque si nous sommes là ce matin, ce n'est qu'un effet de ta grâce encore. Si nous sommes debout, ce n'est qu'un effet de ta grâce. Que toute grâce nous vienne de toi, alors apprends-nous comme le roi David à te bénir pour tous tes bienfaits. Même s'il est quasi impossible de les compter, Seigneur, aide-nous à en compter le maximum, parce que nous croyons que nous sommes environnés de ta grâce. Seigneur, bénis mes frères et sœurs, bénis cette journée. Bénis cette réunion, Seigneur, pour les enfants, que des hommes et des femmes se lèvent également dans l'Église pour te servir auprès des ados, auprès des enfants, auprès des adultes, dans tous les domaines que tu as préparés. Que ton nom soit béni, Seigneur Jésus. Amen.